Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca, au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait un petit voyage à Tanger pour rencontrer Hicham Bouzid. Hicham est un habitué du magazine Diptyque. Vous trouverez de nombreuses références sur Hicham dans les pages et dans les numéros anciens du magazine. Hicham est curateur, il est cofondateur et directeur artistique de Think Tanger. À travers cette plateforme, il assure également le développement du récent Tanger Print Club qui donne un nouvel élan à la sérigraphie. Et là, aujourd'hui, je le rencontre dans son nouvel espace, rue Velasquez. L'espace s'appelle Le Kiosque. Alors cet espace, tu l'as ouvert il y a combien de temps ?
Alors cet espace, j'ai ouvert il y a à peine 3 semaines.
Ouais.
Mais c'est un lieu qui a été en rénovation depuis un an. Parce qu'on a vraiment fait beaucoup de travaux.
C'était quoi comme activité avant que tu le reprennes ?
Alors c'est un espace qui a eu plein de vie. Parce que donc on se retrouve dans le quartier espagnol de Tanger.
Ouais.
Dans un immeuble des années 40, et en fait c'est un lieu qui a servi en était un restaurant qui s'est transformé en un bar, et que dans les années 80, il me semble 70, c'était le premier club de chest, comment d'échecs. Donc en fait c'était un club d'échecs et qui s'est transformé ensuite à un café qui avait une activité un peu bizarre pendant 10 ans, et c'est nous qui avons récupéré donc le café après.
Donc vous formez une sorte de hub aussi avec la librairie des Insolites qui est
exactement tout à fait.
Et donc en fait donc c'est une belle salle avec deux travées. Il y a deux poteaux centraux que tu as laissé en béton brut comme ça. Ça donne un style très très actuel à cet espace, dont tu vas nous expliquer ce que tu as l'intention de montrer, de faire. Je vois qu'il y a déjà des bancs en bois avec deux très beaux tapis cette nouvelle façon de faire des tapis traditionnels avec la laine belge, parce qu'elle est bien nacrée, et des figures qui sont maintenant la nouvelle tendance de la tapisserie rurale, montagnarde, marocaine. Des très belles couleurs. Voilà, et tu as ici, c'est marrant, ce petit siège qui me rappelle une pièce d'Ito Barada.
C'est vrai, exactement.
La fameuse pièce des blocs.
Oui, Lyoté.
Voilà, donc on parlera peut-être de ton lien avec tout l'écosystème de Tanger. Il y a au mur une fabuleuse affiche dessinée au marqueur, je crois, ou peut-être qui vient du Tanger Print Club, tu m'expliqueras.
Ouais.
De Clara Fontibus et Alyosha Tazi.
C'est ça.
Et qui représente une table en fer forgé avec cette très belle typo que tu as utilisée pour ton lieu kiosque, et deux bouteilles de Coca-Cola avec un verre bien citronné, magnifique. Et c'est quoi le chiffre là, 21-07-23, donc c'était le lunch.
Voilà, exactement.
Alors explique-moi un petit peu ce que tu comptes faire ici.
Alors le kiosque, je vais d'abord faire un pas en avant pour peut-être un peu parler de Think Tanger,
oui,
parce que c'est l'organisation donc qui gère et le kiosque, le Tanger Print Club, la résidence. Donc Think Tanger, c'est une organisation culturelle, ou maintenant même ce qu'on essaie d'appeler même une agence culturelle, qui travaille sur les questions, qui a des sujets permanents, enfin qui revient tout le temps, c'est l'art, l'architecture, l'urbanisme et l'entrepreneuriat. Et comment c'est
entrepreneuriat
culturel. Et d'innovation, en fait, innovation sociale et culturelle. Et comment ces composantes, en fait, Think Tanger a toujours joué avec ces composantes pour essayer de repenser les villes, repenser les espaces urbains. À partir du point de vue culturel, ou du moins utilisant la culture comme un moyen ou un médium, que ce soit visuel, que ce soit linguistique, que ce soit à travers les ateliers, etc. Donc Think Tanger, aujourd'hui, c'est 7 ans d'existence et c'est 3 lieux. Donc le Tanger Print Club, qui est un atelier de sérigraphie et d'édition, qui se trouve à 5 minutes d'ici, qui est à côté de la Cinémathèque de Tanger. qui continue en fait son activité d'atelier d'impression. Donc en fait, c'est depuis le Tanger Print Club qu'on a toujours.
C'est la matrice.
C'était voilà. En fait, c'est depuis là-bas où on avait des bureaux avant 2016 quand on a commencé. Mais c'est vraiment l'atelier qui nous a permis d'avoir un premier espace. Voilà, on a pu un peu se explorer, expérimenter avec plein de choses. Mais c'était aussi les bureaux.
Ouais.
Et c'est tous les événements, les actualités, la programmation de Think Tanger se passait à l'atelier.
Vous avez comme matériel d'ailleurs au Tanger Print Club, si vous avez techniquement comme.
Alors aujourd'hui, principalement, c'est de la sérigraphie.
Ouais.
Mais tout récemment, la Cinémathèque de Tanger a acheté maintenant à sa disposition une risographie. Et donc là, on est en train de voir comment la Cinémathèque et le Tanger Print Club et Think Tanger, bien évidemment, peuvent.
Ouais,
travailler ensemble pour faire fonctionner cette machine parce qu'elle est juste extraordinaire. Donc, pour l'instant, c'est vraiment principalement ça avec parfois on fait de la gravure, etc., mais c'est principalement de la sérigraphie qu'on veut développer. Ça, c'est le premier lieu. Et en fait, bon, voilà, après 5 ans, on s'est dit, bon, 6 ans même, 7 ans en fait, on s'est dit, on peut pas. En fait, le lieu commençait à devenir petit pour toutes les activités qu'on est en train de mener. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'envie de chercher un nouveau lieu pour accueillir plus de monde, parce qu'en fait à chaque fois on faisait quoi que ce soit comme programme, que ce soit des ateliers, que ce soit des conférences qu'on organisait ou là des podcasts, et ben en fait ça, il y a eu une petite moyenne de 30-40 personnes qui débarquaient. Pour un lieu comme l'atelier, c'est beaucoup en fait, les gens ils restaient un peu debout, inconfortables. Et donc, l'idée du kiosque est née à ce moment-là, c'était d'avoir un espace dans lequel on peut s'épanouir, dans lequel Think Tanger peut avoir une vraie programmation. Comme tu le vois, on est vraiment, c'est fenêtre sur rue. Donc, on est dans une rue piétonne, très identifiée grâce à la librairie Les Insolites, parce que c'est Stéphanie qui avait commencé à faire vivre un petit peu cette rue avec les autres petits commerces, Ali, le souvenir de Ali, qui vend les meilleurs... maroquinerie de Tanger, il y a eu une artiste, Najwa Hatimi, qui a aussi ouvert son atelier. Donc il y a quand même une sorte, voilà, il y a un écosystème, c'est une rue qui est très identifiée déjà par ça. Et donc nous, on a ajouté un petit peu notre puzzle dessus, mais avec une perspective, avec une nouvelle perspective, j'aimerais dire, parce que le kiosque, ce n'est pas une galerie, mais c'est un lieu qui va accueillir des expositions. Ce n'est pas une librairie, mais c'est un lieu qui va disposer d'une librairie pour acheter des livres spécialisés dans les points de, on va dire, les points de recherche, ou plutôt les points de ce qui anime en fait Think Tanger, donc des livres spécialisés dans l'art, l'architecture, le graphisme, les sujets philosophiques et sociétaux, bien évidemment. Des livres aussi qui viennent des géographies qu'on a moins l'habitude à avoir. Donc, c'est vraiment des collaborations qu'on est en train de monter avec Sharjah Art Foundation, avec de nos amis du Liban, voilà, en arabophone, etc. Avec nos amis de Liban, Donc, on essaie aussi de regarder des espaces avec lesquels nous, on a toujours été en contact, qui font partie personnellement de mes lectures, en fait, mais qu'on trouve jamais malheureusement, ou très, très, très rarement à Tanger. Donc, il y a ça. Il y a bientôt, tu vois, il y a un grand comptoir. Et le comptoir de granito.
Un beau granito noir au sol et un beau granito blanc sur le comptoir.
Le comptoir, alors l'idée, c'est qu'on puisse aussi être un lieu, un petit cafétéria.
Ouais.
On peut, si on vient dans un lieu pareil, c'est pour se poser aussi, pour prendre son temps. Si on regarde quelque chose, ça serait mieux avec un thé ou avec un café ou avec un petit sandwich. Et donc, on est toujours en train de formaliser un petit peu les configurations de ce lieu, parce qu'on veut que ça évolue avec les communautés avec lesquelles on travaille. Donc, il va y avoir toute la programmation de Think Tanger. Justement, vendredi dernier, il y a eu le lancement de notre revue. La revue Macan, le deuxième numéro. Et c'était la première fois où on a vraiment accueilli donc un événement au kiosque,
oui.
Un événement donc culturel après la préouverture. Et le lieu, il s'apprête magnifiquement bien, parce qu'on reste dans un truc un peu intimiste. Les gens ne se sentent pas, comment dire, les gens se sentent très rapidement appropriés le lieu.
Bien sûr. Alors, j'aimerais bien revenir un peu plus en détail sur la partie, on va dire, et la matrice de départ, qui est presque une matrice de design graphique, avec une très forte implication dans le design graphique. Et peut-être on peut l'envisager justement à partir de la revue Macken.
Bien
Je l'ai
sûr.
feuilletée, mais est-ce qu'on peut la feuilleter ensemble et que tu
Allons-y.
me dises quel est l'objectif de cette revue? Alors, le
Alors,
numéro.
regarde,
Super. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler de la typo que vous avez utilisée pour le titre en arabe? Est-ce que c'est une typo que vous avez créée?
oui, exactement.
Qu'est-ce qui a créé cette typo?
Alors, c'est aussi pareil, c'est un truc qui a évolué. La typo, elle est créée par, c'est une typo think tangé inspirée par le Khat Maghrebi, et qui a été créée par le studio Ain Design, qui sont en fait un studio basé en Jordanie, avec qui ont fait la deuxième identité visuelle de think tangé. Il faut savoir que chaque 2 ans,
Changer toute l'identité.
alors c'est pas qu'on change, mais on l'a fait évoluer avec différents studios de graphisme. Macan, le graphisme de Macan est fait par une de nos anciennes artistes en résidence, Anna Benarouche, qui est franco-marocaine, qui est basée à Paris. Et on a pris le choix vraiment d'avoir un. Bon, alors j'ai vraiment une passion dans l'édition, comme tu dois le savoir, et le graphisme en particulièrement. Donc on a beaucoup travaillé sur avoir quelque chose qui soit agréable à la lecture, mais en même temps qui puisse attiser les curiosités, attirer, voilà. Là, par exemple, on passe, parce que donc, Macan, c'est une revue qui est publiée en 3 langues. Ça ne veut
Un
pas
français,
forcément
anglais,
dire que chaque langue est traduite, mais en fait, chaque contributeur ou contributrice
écrit dans la
participe, voilà.
langue.
Et
Et
on
donc,
a
ce n'est pas
fait.
des traductions, ce sont des contributions libres sur 3 langues.
Exactement. Alors, on a dû traduire, par exemple, certains articles de français en arabe pour trouver un équilibre, là, juste pour des décisions éditoriales. Et là, pour cette revue, on a pris le parti de. En fait, quand on arrive à l'arabe, on change le sens
C'est ça.
complètement de la revue. Donc, ça devient même un
Un objet à
objet.
360
Voilà, c'est
degrés.
ça. Dielmen. Et donc, il y a même. Alors, l'introduction de Darija aussi,
Oui, c'est
elle
intéressant.
est dans, elle est dans. En fait, c'est une revue pareille qui s'adresse un peu. Je pense qu'aujourd'hui, on a construit un public qui est arabophone, et anglophone, et francophone. C'est un public qui est basé et au Maroc, et en Afrique du Nord, et en la région Swana. Et donc, c'est vraiment. Voilà, c'est un peu ce terrain qu'on essaye de couvrir.
Et alors, qui sont les contributeurs de cette revue?
Alors, on a 15 contributeurs et contributrices, toutes et tous qui ont un lien, du moins avec la région. On a des contributions, par exemple celle de Nadia Tazi, qui est une philosophe,
Oui, je la connais.
voilà, excellente philosophe et penseur marocain basé aussi à Paris, qui a travaillé sur les questions de la
Féminin, masculin.
virilité, de l'origine de la virilité dans le monde musulman. Et qui a gentiment contribué avec un magnifique article qui s'appelle D'homme à homme et qui vraiment traite voilà, de la naissance et de l'idée de la virilité.
Oui, je l'ai eu dans une table ronde en fait. Je la connais depuis toujours, mais là j'avais affaire à sa pensée,
Ouais.
effectivement très, très
Salam.
intéressante. Et en fait. Quel est votre lien vraiment avec l'objet revu, l'objet livre versus le digital? Comment vous faites exister une structure? En fait, je vois beaucoup en ce moment un retour à l'objet. En fait, le retour à l'objet au papier, il signale aussi peut-être un retour aux communautés qui sont capables tout ensemble de toucher un même objet et de s'approprier un même objet. Il y a un peu une réflexion aussi sur, puisque vous travaillez aussi beaucoup sur la ville et les architectures et les publics, etc. Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait avec cette démarche un peu dans l'immédiateté? Parce que finalement, créer une revue en papier en 2023, j'en sais quelque chose, mais en plus une revue comme ça qui vraiment se prend dans la main, qui est disposée dans l'endroit dont elle porte aussi le nom, dont elle a une parenté graphique avec le lieu est tout de suite accessible à une audience. Est-ce que tu as envie de parler au local, au global? Comment tu vois les choses?
Tu as dit un mot très important, je pense, la question de l'immédiateté.
Ouais.
Et je pense que McCann est une revue qui ne se veut pas dans l'immédiat. C'est vraiment une revue où il faut prendre son temps pour la lire, parce que des articles, ils sont assez... c'est des articles de fond avec plein de références, avec certains articles qui sont complètement vraiment dans certains éloges fictives. Donc, il y a ça d'un côté. Il y a la question de consommer l'information, donc comment, la façon avec laquelle on consomme l'information, elle est différente, que ce soit d'une manière digitale. En tout cas, moi, je sais, par exemple, ma lecture sur l'écran, c'est pas forcément un truc que je vais enregistrer rapidement. Surtout, c'est quelque chose qui va se perdre. Mm-hmm. Et je peux pas souligner, je peux pas revenir à cet objet. Donc vraiment, c'est né à partir de ce constat de justement notre génération qui a grandi avec les écrans, une génération qui arrive. Et en fait, même cette génération, quand elle prend cet objet entre les mains, il y a un rapport différent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est contre le digital, au contraire. En fait, on veut développer une plateforme McCann en ligne, mais que ce soit pas que ce soit pas juste un PDF qui est publié sur Internet, mais que ce soit vraiment une vraie édition digitale. Mais bon, ça va être le prochain chantier
c'est un vrai sujet.
De la revue.
C'est un vrai sujet. Et en fait, du coup, quel est l'objectif en fait ? Quels sont, par exemple, est-ce que tu peux me citer deux sujets de ce numéro 2 sur les deux dont tu as envie de parler aux auditeurs du podcast de Diptyque, par exemple ?
Alors, le deuxième numéro s'intitule Manufacturing Narrative, la fabrication des récits. Et en fait, on a invité comme j'ai dit tout à l'heure, 15 contributeurs et contributrices qui sont de la région et d'ailleurs, qui travaillent vraiment sur la question de comment on peut réinventer des nouveaux récits aujourd'hui dans des sociétés comme le Maroc où on est en plein chantier, on est en plein booming économique, mais en même temps, il y a des disparités incroyables. Et comment le fait d'aligner un certain récit qui est national, qui est religieux, qui peut en fait nous porter à confusion, mais surtout à se malentendre. Donc l'idée de la fabrication des récits, en fait, c'est de regrouper des récits, que ce soit sur la question du genre, que ce soit sur la question de l'urbanisme et de l'architecture, que ce soit sur la question palestinienne, parce qu'on a un article vraiment qui travaille sur, mais pas à travers un angle encore de conflit, mais plutôt vraiment l'idée de la Palestine même. Et donc, comment on peut réinventer en fait tous ces récits de façon à que ce soit différent, un sorte de d'hégémonie de récits qu'on a sur les médias de masse, etc.
Oui. Je vois par exemple que là, tu as une contribution de Dito Barada.
Oui.
Donc, c'est un interview.
Exactement.
Et donc, par exemple, là, de quel narratif il s'agit dans l'interview de Dito Barada ?
Alors, l'interview avec Ito, elle a été conduite par Ali Talat Assad, qui en fait est maintenant l'éditeur en chef de la revue, qui est palestinien, jordanien, qui est basé à Amsterdam. Et il a en fait l'idée d'interviewer Ito sur la question d'ailleurs l'article s'appelle The Right to Narrate, le droit de raconter. Et c'est aussi emprunté à Edouard Saïd, quand il parle du vraiment.
Le droit de se réapproprier.
Exactement, de se réapproprier. Voilà, tout à fait. Et en fait, l'idée, c'était à travers l'œuvre d'Ito qui, en fait, regarde justement les vides historiques, de l'histoire de Tanger, mais pas que. Comment à travers cette pratique artistique elle se réapproprie ou du moins elle réinvente certains récits qui sont parfois même imaginaires,
oui.
Mais le fait de le restituer dans un cadre particulier fait que ça donne une autre idée sur l'histoire de la ville ou l'histoire du pays. Il se trouvait que c'était aussi pendant il a beaucoup parlé de son voyage en Palestine parce que je pense qu'avec Ali, il y a eu une connexion, palestinienne. Elle est revenue sur son voyage en Palestine, il y a vraiment un parti de la vie d'Ito il y a une sorte de tournant, et ça c'est chouette.
Alors, un autre sujet peut-être de la revue sur lequel tu as envie de d'attirer l'attention.
J'avais parlé de Nadia Tazi. Bah, je pense que j'ai un peu parlé du celui de L'Habib.
L'Habib
Moumni qui
rewriting the colonial discourse in the case of the colonial protectorate
of Morocco. Et en fait, donc L'Habib, c'est un architecte qui aujourd'hui fait son doctorat, il me semble, à ETH Zurich, qui fait partie des groupes membres fondateurs de MAMA Group de Casablanca, le groupe des architectes modernistes de Casablanca, et qui écrit en fait sur la notion justement de quel récit la France a pu coloniser le Maroc, mais vraiment à travers l'idée du protectorat. Et donc, tout son article explore la question du comment on passe d'une idée du protectorat français à une idée du colon, de la colonialité française. Et en publiant, d'ailleurs, je pense que ça, c'était le geste fort, Mouahadat Fès, le traité de Fès, qui est vraiment le traité de la colonisation ou du moins du protectorat. Donc vraiment, il prend la question de la colonisation, mais à travers le récit, à travers ce que ça a inculqué comme récit, ce que ça lègue aujourd'hui aussi comme, on va dire, comme dégâts ou comme conséquences à ce que c'est durable, mais justement à travers la question du récit.
Mais il ne le traite pas d'un point de vue de l'architecture, c'est pas son problème.
Non, pas du tout. C'est vraiment la réécriture du récit colonial marocain.
Alors revenons au kiosque où nous sommes maintenant. Quel est ton projet pour ce lieu? Par exemple, quelle sera la première exposition par exemple que tu montreras ici? Je sais que c'est pas un lieu d'expo, mais il y aura forcément, je vois qu'il y a beaucoup de murs, c'est vrai.
Oui.
Il y a beaucoup de murs, il y a même quelque chose d'intéressant entre les deux poteaux.
Exactement.
Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans cet espace. Donc,
Alors, déjà, nous, on essaie vraiment de, comment dire, de, on va construire ce lieu très doucement.
Ouais.
Les expositions, la première exposition, et je vais pas vraiment dévoiler en détail, mais ça va porter justement sur la question d'architecture, du nord du Maroc, principalement. Welcome salam. Navas, je vais faire, Diane. Ça va porter sur ces questions, en montrant un petit peu surtout Tanger, ville internationale, toutes ces époques, en fait, qui ont traversé Tanger, donc, d'une idée, de façon très, architecturale, en travaillant avec des bureaux d'architectes ici, parce qu'on a vraiment envie d'ancrer le lieu sur de l'accès sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des artistes à inviter, mais on est en train de voir comment chaque année on peut faire des invitations pour des expositions qui vont être justement parce que le lieu n'est pas, voilà. En fait, le lieu n'est, comme je disais, pas forcément une galerie où il va avoir une boutique aussi à côté, une sorte de boutique librairie. Donc, enfin, on va essayer de penser les expositions à ce qu'elles soient accessibles dans le sens où c'est des choses qu'on peut en fait se procurer très rapidement avec des prix très raisonnables, mais au-delà de la question des prix, etc. Mais c'est vraiment comment on peut penser des petites expositions, mais avec des sujets très pertinents et avec des pratiques aussi qu'on essaye de développer. Donc ça va
sur une éditoriale un peu
exactement précise. Voilà. Et donc comment on va inviter aussi des artistes qui vont répondre forcément à ces sujets pour rester cohérent, on va dire, dans le après, bon, il y a des artistes avec lesquels on a beaucoup envie de travailler. Je pense que c'est en train de se concrétiser, justement Ito, j'espère l'année prochaine avec Leila Hida, donc tout un peu ce network ou des gens qui ont participé aussi à Think Tanger d'une façon ou d'une autre, des gens qu'on voit pas forcément sur Tanger même s'ils sont de Tanger. La dernière fois, il y avait l'artiste Anwar Khalifi, qui my big brother, qui était là l'autre fois, qui me disait ouais, mais en fait, on a envie de revenir à Tanger. Et j'espère que ce lieu va être aussi pour ces artistes,
réinjecter un petit peu de ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus ailleurs.
Voilà.
Aujourd'hui, il a une carrière à Dubaï.
Exactement, tout à fait.
Aussi à Casablanca, mais beaucoup à Dubaï. Hein. C'est un artiste qui vraiment a une très très belle carrière en ce moment.
Oui, Complètement.
Et oui, tu vois, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Tangérois.
Bah oui.
Tu as aussi Elias Lfati aussi qui.
Elias Lfati, bien sûr. Elias Lfati, on a des sérigraphies, magnifiques sérigraphies avec lui. Et donc, justement, dans cet espace, donc là, le premier carré dans lequel on se trouve, après la librairie, il va avoir aussi un stand de toutes les sérigraphies du Tanger Print Club qui vont être disponibles ici à la vente. Donc, c'est vraiment un lieu qui va essayer de repenser une certaine économie, ou une certaine économie autour de l'art. C'est ce que je disais.
Une autre économie, en tout cas.
Une autre économie qui est plus circulaire, qui est, justement, on se positionne pas,
aussi.
Voilà, qui est plus abordable, où on va aussi avoir des artistes comme Elias Lfati, mais accessible à un marché plus, à un public plus large. Donc, on est en train vraiment d'essayer de s'ancrer.
Une vraie cohérence entre ton public aussi et ce que tu as.
Bah, bien sûr, exactement.
Donc, alors, tu disais tout à l'heure, donc, ici, le kiosque, le Tanger Print Club, et donc, Think Art, ça devient?
Think Tanger.
Think Tanger. Oh,
Think Art,
excusez-moi. Alors, Think Art, excusez-moi pour l'erreur. Think Art, c'est la structure.
À Casablanca, c'est le mot.
Bon, je vais jamais couper ce moment pour que vous sachiez bien que ce sont deux structures différentes, chacune avec sa pertinence et sa zone géographique. Donc, ici, on est à Tanger, Think Tanger. Et donc, alors, Think Tanger, ça devient plutôt une organisation, c'est ce que tu me disais.
Oui, en fait, on est en train de faire évoluer l'idée. C'est pour ça que je parlais d'une économie autour de l'art, au lieu d'un marché de l'art.
Oui,
c'est là où on est en train de se positionner. C'est un mot qui existe pour certains,
oui.
Mais nous, ce n'est pas notre. C'est pas là où on se positionne. Nous, on se positionne vraiment sur créer une sorte d'économie autour de l'art, où on va essayer d'avoir. Des choses à des prix accessibles qui en fait aident et notre organisation et les artistes, et c'est pour ça qu'on est en train de essayer comment on va redéfinir Think Tanger autant que une agence culturelle. Donc ça c'est vraiment très nouveau même pour nous, parce que aussi il y a des nouveaux membres de l'équipe de Think Tanger aujourd'hui qui viennent d'un milieu très différent.
Alors qui sont les membres de l'équipe d'ailleurs?
Oui, alors il y a Amine Houari qui est juste à côté de nous, qu'on connaît, qui est excellent photographe et qui d'ailleurs nous régale parfois même avec des photos d'ouverture et des choses. Mais Amine, donc, qui s'est joint à l'équipe il y a 4 mois et qui s'occupe d'un programme de Think Tanger qui s'appelle les Ateliers Cités. Et les Ateliers Cités, c'est en fait tout le programme qu'on mène en collaboration avec des quartiers périphériques de Tanger, où là, justement, on travaille sur le narratif de ces quartiers à travers la radio, à travers la psychogéographie, à travers plein de différents outils et médiums, c'est Amine qui s'en occupe. Il y a Khadija Zanafi, qui est l'ancienne de l'équipe aujourd'hui, qui est notre administratrice. Un tout jeune Millennium qui vient de se joindre à nous, qui en fait nous fait toute la communication aujourd'hui, Kamel Darmoumi, qui est aussi photographe d'ailleurs. Et la toute nouvelle personne, c'est Yassine Fatihi, qui lui vient du monde de l'IT. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc en fait, il commence maintenant avec nous en tant que consultant dans transformation organisationnelle. Et en fait, il élabore il a une boîte de consulting qui s'appelle Doctor Project. Et à travers Doctor Project, il aide les entreprises principalement. On est sa première structure culturelle. Et il aide les entreprises et les associations culturelles même à les outiller en outils technologiques pour faciliter leur travail. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, on est vraiment en train de, avec lui, grâce à son travail, son accompagnement, d'avoir un autre standard de travail qui est très très réglo, très professionnel, parce que là par exemple tous les emails passent par une plateforme spécifique. Après chaque événement, en fait, on a aujourd'hui, grâce à des CRM, Customer Relation Management, on peut avoir les feedbacks des gens.
Oui.
Est-ce que vous êtes venu à Macquin, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que cette revue vous a plu, est-ce que, donc il y a un questionnaire à chaque fois qui fait après, donc toutes ces données. Ça fait 7 ans qu'on existe, mais on n'a jamais. Donc là, c'est vraiment une autre manière d'appréhender les publics, de construire une sorte de communauté digitale. Mais surtout même, on travaille en interne, parce que là, on travaille avec 15 logiciels. Un pour qui s'appelle Monday, sur par exemple, les calendriers partagés, le travail des tâches, etc., etc. Donc, et en fait, Yacine, au-delà de ce travail, on est en train de penser justement comment ouvrir cette question de l'IT aujourd'hui dans Think Tank. Dans le sens où,
bah. Ça peut devenir une composante à part entière de ton activité.
Exactement.
Ça risque de le devenir, d'ailleurs.
Bah, ça risque de le devenir, surtout avec le kiosque, qui, cette vitrine. Donc, comment, en fait, moi, je me dis, il y a tellement d'outils qui existent aujourd'hui. Et ça fait que 3 mois que j'y suis. Et en fait, mes yeux sont complètement, voilà, à chaque fois, il y a un problème. En fait, la solution, elle existe. Sauf qu'en fait, nous, quand tu viens pas du monde de l'IT, tu te rends pas compte des possibilités qui existent. Donc avec Yacine, on souhaite un peu développer un truc de consulting IT ou de la formation sur les questions de la technologie, etc.
En faire une activité propre et la vendre à d'autres.
Exactement.
Mais je suis intéressée par cette question de professionnaliser l'activité d'une structure parce que finalement, bon, moi depuis à peu près 15 ans que je fais le magazine, j'ai vu beaucoup les structures, on va dire, centres d'art, être en fait des structures avec des grandes ambitions, mais finalement, en termes d'organisation, quelque chose d'un peu trop au jour le jour.
Exactement.
Et ça fait que les organisations, souvent, pas se cassent la figure, mais en tout cas, elles s'épuisent en même temps que, la personne qui les a créées. Ouais. Et c'est vrai qu'on doit créer des organisations qui nous survivent.
Exactement. Ouais, et en fait, c'est exactement ça l'idée.
Voilà, on est la personne qui impulse. Tu es la personne qui impulse, mais tu dois créer des process et des activités qui financent les autres activités, parce qu'il y a fort à parier que l'activité IT, si elle devient intéressante, elle risque de financer tout le reste. Parce qu'on sait tous où sont les économies, dans l'art un petit peu, mais bon, c'est des économies presque un peu circulaires, si j'ai bien compris comment tu veux la faire travailler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, dans les IT, là, comment vous financez en fait toutes vos activités?
Alors aujourd'hui, c'est principalement du fundraising que je fais moi-même. Donc c'est vraiment la levée de fonds. Ça aussi c'est très technique et c'est laborieux et c'est pas très équilibré, je dirais, parce qu'on est toujours à la merci d'un oui ou d'un non d'une subvention
ou d'un arrêt. Travailler et puis ça s'arrête.
Exactement. Mais je pense, et alors aujourd'hui, c'est pour ça que je parle d'agence culturelle, c'est qu'on essaie de, maintenant après 7 ans d'existence sur nos métiers, en tout cas à Think Tank principalement, parce qu'on croit quand même qu'on a développé des projets assez particuliers, des types d'ateliers. En fait, on a réussi à développer des modèles un peu alternatifs à ce qu'on trouve, que ce soit d'ailleurs au Maroc ou dans la région. Moi-même, je suis mentor aujourd'hui pour plein de programmes, dont un avec le Prince Claus et le Simularing Fund qui s'appelle Building Beyond, où je transmets un petit peu le savoir de Think Tank à une nouvelle génération d'architectes et de jeunes créateurs et artistes du tout le continent. On était à Accra il y a quelques semaines, justement, pour une réunion. Et en fait, l'idée, c'est que dans les 3 prochaines années, je pense, pas avant, mais en tout cas, doucement transiter vers un modèle où du moins les charges de Think Tank sont payées par Think Tank. C'est ambitieux parce que quand même on a commencé à avoir beaucoup de charges, mais si on arrive à trouver au moins cet équilibre, à générer juste assez de fonds pour pouvoir payer les loyers, les salaires, etc., c'est déjà ça.
Est-ce que par exemple le Print Club, est-ce que ça pourrait devenir un atelier de design graphique qui, j'invente quelque chose complètement, qui pourrait créer les affiches événementielles de festivals mais aussi les affiches événementielles, par exemple des expos de toutes les galeries qui elles sont dans le marché de l'art, on dit, ou des foires ou des biennales, ou que sais-je, enfin, en tout cas peut-être dans le domaine de l'art. Est-ce que c'est une activité qui pourrait se concevoir comme ça?
Alors doucement ça va s'installer comme ça. En fait, on a pris des projets de graphisme. Le dernier, c'était avec justement pour créer toute l'identité visuelle de l'anniversaire des 5 ans du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. C'était génial. On a fait vraiment la production de A à Z jusqu'à livrer les affiches à Marrakech. Donc, ce n'est pas qu'un atelier de graphisme à ce moment-là, mais c'est vraiment une boîte de communication à peu près, parce que vraiment, tout est livré. On n'en voit pas que les fichiers, c'est ce que je veux dire. Ça fait partie un peu du business model qu'on essaie de développer. C'est juste que ça va prendre un petit peu son temps aujourd'hui pour s'installer, parce que Avec tout ça, on est une équipe de 5 personnes, donc c'est quand même laborieux. Mais j'espère qu'en 2024, on va réussir un petit peu à équilibrer les choses, parce que je suis en train de faire une levée de fonds actuellement pour pouvoir un peu vraiment installer Think Tanger pendant les prochaines années. Et si ce jackpot arrive, là, on pourra vraiment installer une vraie activité pour le Tanger Print Club, une vraie activité pour le kiosque, et justement pouvoir avoir au moins une personne qui est chargée de tout l'aspect un peu marketing et commercial. Parce qu'en fait, même les séries graphiques qu'on vend, si on faisait plus ça, c'est vraiment quelque chose qui génère un peu d'argent, et pour notre association, et pour les artistes. Parce qu'en fait, quand on fait un multiple de 10 ou de 20, bizarrement, en fait, ça se vend plus rapidement qu'une toile qui est dans une... Enfin, ça dépend des types d'événements, bien évidemment, et des publics. En tout cas, on est en train de penser cette économie de l'art qui, je pense, elle est là, en fait. Et parce que je savais, le jour où on a lancé le Tanger Print Club, ce qui se faisait appeler l'atelier Kressali à l'époque, qu'il y avait des gens comme moi, comme toi, comme plusieurs gens qui, quand ils voyagent, on ramène des affiches.
Moi, quand je tombe sur un beau graphisme, je suis en extase. Enfin, c'est un bonheur pour les beaux graphismes, pour les belles mises en page, pour les très belles typos. Quand je tombe sur une belle typo, je trouve que c'est de l'art.
Bien sûr. Et donc, on est passionné par ça. Et en fait, je me dis, quand je suis à Tanger, ou là je suis d'ailleurs pas que à Tanger, mais pratiquement, il est très difficile de trouver, or que les artistes ils sont là, c'est pas ça qui manque, mais il n'y a pas de lieu justement de production qui va aller. Donc nous, je me suis positionné sur une théorie en disant qu'il y a des gens qui ont un budget qui n'est pas celui d'acheter des toiles, mais ils ont quand même un budget, mais qui n'a pas de lieu pour être dépensé. Et en fait, au fur et à mesure, dès la première expo et la deuxième exposition, ça en 2017 et en 2018, on a même, comment dire, on a découvert qu'il y avait, qu'on a créé une petite partie de jeunes collectionneurs, on va dire. Et en fait, c'est vraiment des gens qui vont nous acheter une ou deux œuvres par an. Que ce soit, ils attendent aussi les artistes. Par exemple, ils vont attendre à Anwar Khalifi ou à Yes Fati ou à Ito Brada.
Parce que ce n'est pas des très gros tirages. Tu fais des tirages de combien ?
De 10 généralement, ouais. Maximum 20, dépendant des formats, etc. Et
là, on se retrouve sur des séries limitées qui ont beaucoup de valeur.
Exactement. Ouais. Et du coup, on a créé une sorte de gens qui nous disent « Bon, si vous avez cet artiste, vous nous gardez ça. » Et ça, c'est chouette parce que... C'est aussi peut-être c'est tout simplement ma génération, ils ont entre 30, 35 ans, et qui peuvent être dans les 10 prochaines années ceux qui vont acheter.
Et puis en plus, dans l'affiche, il y a un happening que parfois il n'y a pas dans une œuvre originale.
Ah, exactement.
Parce qu'il y a un happening, parce que si l'artiste se sent très libre d'aller chercher des chocs visuels, un peu de la diversion aussi.
Exactement. Ouais. Exactement.
Bon, donc du coup, si jamais cet épisode est diffusé en été, et d'ailleurs même s'il n'est pas diffusé en été, j'engage vivement les auditeurs du podcast à se rendre à Tanger, rue Velasquez, pour venir se faire partie de la communauté du kiosque et de Think Tanger, d'acquérir la revue Macken qui est vendue, donne-moi le prix.
À 190 dirhams.
190 dirhams, et qui est une très belle revue. Quelle est la périodicité ?
Annuelle.
Fabuleux. Merci beaucoup,
merci
Michel.
À toi.
Et à très bientôt.
À très vite.